buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Oder man geht über die Schaufnergasse und schaut, wo ein Platz zu finden ist.
Bonjour à tous. L'Autriche est loin d'en avoir fini avec l'extrême droite, puisqu'un nouveau gouvernement, associant les conservateurs de l'EVP au parti FPE, devrait être investi le 20 décembre prochain, 2 mois après les législatives. Alors si elle n'est plus tabou, la participation d'un parti d'extrême droite à l'exercice du pouvoir mobilise néanmoins certains opposants, comme le montre ce reportage à Vienne de Céline Béal.
Cierge à la main, à la nuit tombée, ils sont quelques 3000 à avoir répondu à l'appel de l'association de défense des droits de l'homme, SOS Mitmensch, pour former une chaîne humaine autour du quartier gouvernemental à Vienne. 3000 personnes venues ainsi montrer leur opposition à l'attribution de ministères à des membres du Parti de la Liberté, le FPE. Alexander Polak est le porte-parole de SOS Mitmensch. Son association observe les activités formelles et informel de ce parti.
Le FPE soutient et finance depuis des années des cercles d'extrême droite, néo-nationaux, antisémites et racistes. Nous considérons que c'est une menace et nous refusons que de telles personnes accèdent aux plus hautes fonctions de l'État.
Depuis quelques semaines, les manifestations se suivent dans la capitale. Avec ses 3000 participants, la chaîne humaine est de loin la plus mobilisatrice. Une affluence respectable, d'autant que les pourparlers de coalition avec les conservateurs sont toujours en cours et que l'entrée du FPE au gouvernement, quoique très probable, n'est donc encore que théorique. De plus grandes manifestations pourraient alors s'organiser. Devant la chancellerie, l'école de ballet antifasciste est venue répéter une danse pour le jour X, comme on appelle ici le jour où la formation du nouveau gouvernement sera annoncée. Parmi les danseurs, Magdalena. Étrangère, elle n'a pas le droit de vote. Mais elle espère qu'en s'engageant, elle pourra quand même faire bouger les choses dans son pays d'adoption.
Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent se réveiller. Moi, je viens de Pologne et là-bas, cela a aussi duré extrêmement longtemps avant que les gens ne commencent à se mobiliser et à descendre dans la rue. Évidemment, c'était déjà un peu trop tard et je crains qu'ici aussi, cela ne soit trop tard.
La jeune danseuse comprend bien que beaucoup d'Autrichiens soutiennent l'autre camp. 26% aux législatives, ils étaient même 46% à donner leur suffrage au candidat du Parti de la Liberté, Norbert Hofer, à la présidentielle l'année dernière. À l'Université de Vienne, le spécialiste des mouvements protestataires Martin Doletzal constate que l'opposition s'organise difficilement.
Les principaux opposants au FPE se situent en général à la gauche du spectre politique. Dans la société civile, il y a quelques grandes organisations qui lancent les manifestations. Quant au cercle culturel et artistique, il ne joue pas encore un rôle aussi grand qu'en l'an 2000.
En 2000, jusqu'à 150 000 personnes défilaient après la formation du premier gouvernement fédéral incluant des ministres du Parti de la Liberté. Aujourd'hui, une telle fureur est difficilement envisageable. D'abord parce que le populisme de droite n'est plus une exception autrichienne. Mais pas seulement.
Il y a le contexte international qui a changé. Le fait aussi qu'on s'est habitué au FPE et qu'un glissement général s'est opéré à droite dans la société autrichienne, conséquence notamment de la crise des réfugiés. Et puis les sociaux-démocrates ont changé de positionnement. Ils ne font plus bloc contre le FPE comme en 2000.
Alors que la gauche avait joué un grand rôle dans la mobilisation il y a 17 ans, elle a depuis abandonné son principe d'un cordon sanitaire autour du FPE, avec lequel elle collabore désormais aux échelons communal et régional. Seul un parti considère encore une telle coopération comme un tabou, les Verts. Mais ceux-ci viennent de perdre tous leurs députés aux législatives. Chassés de la chambre basse du Parlement, ils pourraient cependant n'en être que plus actifs dans les manifestations, selon le professeur Doletzal. Et en effet, on retrouve leur figure de proue sur le pavé, comme l'élue viennoise Faïka El-Nagashi, présente dans la chaîne humaine. Pour elle, Le combat contre le FPE se joue ici, mais aussi, encore, tout de même, dans les derniers bastions verts dans les institutions.
Nous sommes toujours présents dans les parlements régionaux où nous nous inscrivons en faux par rapport à la politique du FPE. Par exemple, nous votons à Vienne une loi sur les minima sociaux. Nous montrons clairement qu'un autre type de politique est possible que celle de la droite et que celle qui est menée à Vienne.
Ni les derniers élus verts, ni les porteurs de cierges n'empêcheront néanmoins le retour au pouvoir du FPE. Ils peuvent juste espérer infléchir le contenu de l'accord de coalition actuellement en négociation avec les conservateurs. Seule petite victoire à fêter, le président de la République, Alexander Van der Bellen, a refusé par avance d'investir deux personnalités particulièrement controversées à des postes de ministre. Une déclaration symbolique, puisque les deux hommes n'étaient pas forcément ministrables. Mais qui rappelle que les opposants au FPE ont au moins un allié, le président. Reste à voir ce que ses pouvoirs limités lui permettront d'accomplir.
Des adresses e-mail piratées, des comptes bancaires vidés, des sites internet détournés, des systèmes informatiques de grands groupes hackés. On estime à 300 milliards d'euros le coût des cyberattaques chaque année dans le monde. L'Union européenne a donc décidé d'aller plus loin pour protéger particuliers, entreprises, gouvernements. Une agence européenne de cybersécurité est en cours de création. Elle sera plus performante que l'actuelle ENISA, l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Et nombreux déjà sont ceux qui rêvent d'y travailler. Assis à Bruxelles, un master de cybersécurité a vu le jour il y a un an. Il est unique en Belgique et rare au sein de l'Union européenne. Reportage de Lax Milota.
De faire deux projets ici durant le cours. Le premier, c'est je leur ai fait un faux site web de banque. Ils doivent hacker, donc me voler mes informations. Donc le compte en banque et il y a un coffre-fort aussi. Ils doivent me voler mon coffre-fort et ça les amuse bien.
Frédéric Pluquet est professeur de développement et sécurité à l'École supérieure d'informatique. Exercice pratique de piratage, ce matin en laboratoire, les étudiants sont penchés sur leurs ordinateurs portables, des séries de chiffres défilent à l'écran. Renaud Gaspard, étudiant.
Le mot de passe, bon, il a été bricolé pour qu'on ne puisse pas le retrouver facilement. Ce qu'on peut faire, ça s'appelle un buffer overflow. Concrètement, on entre des données dans l'input du mot de passe, sauf que ces données vont plus loin que la taille que le programme attend pour recevoir ce mot de passe, et du coup on va écraser d'autres données plus loin dans le programme qui permettent de contourner la vérification de ce mot de passe.
Si vous avez compris quelque chose, c'est que vous êtes prêt à devenir spécialiste en sécurité informatique.
On peut le faire avec toutes les protections, mais avec le Canary, ASLR et une stack non exécutable, et il passe quand même.
Excellent. Frédéric Pluquet explique qu'il s'agit de piratage éthique, apprendre les techniques des pirates pour mieux les combattre.
On ne prend rien d'existant, on n'a pas demandé la permission avant. Okay, c'est très important. Et une chose importante aussi, je ne leur apprends pas à être des hackers, mais plutôt des professionnels en sécurité. C'est-à-dire qu'ils savent hacker, mais ils savent surtout se protéger des hackers. Mais je pense qu'on ne peut pas se protéger des hackers tant qu'on ne réfléchit pas comme un hacker. Donc je leur demande de hacker. J'espère qu'ils ont un code moral assez bon. On leur parle de tout ça, évidemment. Mais les meilleurs experts en sécurité sont des très bons hackers, d'abord. Et je leur explique aussi qu'il y a des lois en Belgique, qu'il y a des lois dans le monde, et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Après, ils sont adultes et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Ils auront les problèmes qui suivent.
Bien sûr, le domaine d'études est sensible et ses étudiants, pas comme les autres, font l'objet d'un suivi par les autorités. Yves Rogman, l'un des créateurs de ce master de cybersécurité, est professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Il est évident que nos étudiants doivent être pistés et on essaye d'en établir le profil, mais ce n'est pas l'université qui le fait, c'est effectivement sans doute la sûreté. En fait, il est notre responsabilité de faire acquérir une certaine éthique à nos étudiants, mais en plus, chacun des enseignants transmet ce message dans ses cours. Et nous avons déjà eu, pas dans ce cas de cette filière-ci, mais dans d'autres filières, des étudiants qui avaient des intentions malveillantes. Il y a des sanctions naturelles. Nous espérons donc, justement, comme c'est une formation longue et lourde, de pouvoir détecter les quelques brebis galeuses qui pourraient s'y perdre, mais franchement, c'est anecdotique.
70 étudiants inscrits, deux femmes au total, et de nombreux débouchés à la clé. Yves Rogman.
Toutes les cyberattaques que nous connaissons sont largement dues à un manque de connaissances et de maîtrise de ce domaine-là de la part des entreprises et des institutions publiques. Et c'est vrai que, à part quelques très grandes entreprises spécialisées dans le domaine, peu ont dans leur personnel des gens compétents dans ce domaine. Et nous ne sommes pas capables de produire suffisamment de diplômés, si je puis utiliser ce terme, par rapport à la demande de l'industrie en général.
Entre pirates et spécialistes en sécurité, c'est une course. Qui trouvera les failles? Qui réussira à contrer les attaques? Une lutte passionnante pour Enzo Borel, 21 ans.
Une lutte, oui, mais en sachant qu'il y a quand même deux vitesses. D'un côté, les mauvais ont toujours eu et ont toujours, je pense, une longueur d'avance par rapport à ceux qui respectent une certaine éthique. Parce qu'ils consacrent leur temps à ça, et puis pour quelqu'un qui pratique ça avec éthique, souvent il va devoir attendre que les attaques soient trouvées. Et pour les analyser après, donc il y aura toujours un temps de retard.
Ces étudiants peuvent espérer travailler au service de banques, d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs d'accès à Internet, d'industrie, de gouvernement, et pourquoi pas à la future agence européenne de cybersécurité.
Nul doute que cette future agence de cybersécurité comptera en son sein de nombreuses femmes, de plus en plus présentes dans le secteur des nouvelles technologies, à l'image de Monica Giman, jeune roumaine qui, à Bucarest, dirige une start-up d'origine française. Benjamin Ribou l'a rencontrée.
À 40 ans, Monica Giman dirige la société Pentalog Software Factory, une plateforme de services numériques qui s'appuie sur 1000 collaborateurs répartis sur 3 continents. Pour cette businesswoman, il ne fait aucun doute que les femmes roumaines sont parvenues à s'imposer dans leur pays.
Nous représentons aujourd'hui au niveau de la Roumanie, donc 51% de la population et 48% de la population active. Ça veut dire que nous sommes un vrai moteur de croissance. Les femmes aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Elles peuvent être entrepreneurs, elles peuvent travailler dans des secteurs qui sont en général plutôt adaptés pour les hommes, parce que moi je travaille dans une société où j'ai 40% de l'effectif représenté par les femmes. Dans tous les métiers que nous retrouvons dans la création de logiciels, elles sont accomplies aujourd'hui par les femmes aussi.
Malgré ces signes encourageants, le potentiel des femmes n'est pas encore complètement utilisé, estime Monica Giman. Seul un quart des startups roumaines sont lancées par des femmes aujourd'hui. L'un des problèmes, c'est l'accès au financement. Mais pour cette battante, tout est question de volonté.
Il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est simplement une partie du chemin qu'on a pour arriver à des résultats. Parce que c'est vrai, être entrepreneur, ce n'est pas facile. Être entrepreneur, c'est de s'investir au maximum. C'est de savoir créer une équipe autour de soi. Ce que j'aimerais, et qui n'existe pas aujourd'hui, moi je ne vois pas beaucoup d'exemples, j'aimerais voir des exemples des licornes qui sont créées par les femmes. Parce qu'aujourd'hui, en général, il n'y a que des hommes qui ont transformé un start-up dans un licorne, donc une société qui est valorisée, un start-up qui est valorisé à plus de 1 milliard.
Les femmes sont aujourd'hui à la tête de 38% des entreprises roumaines. Un bon score, similaire à d'autres pays plus développés, alors même que l'histoire de l'entrepreneuriat en Roumanie est toute récente, 27 ans seulement.
L'avenir, c'est maintenant.
Livre. L'Afrique est l'avenir de l'Europe, c'est la conviction profonde que partagent Jean-Louis Guigou, fondateur de l'Institut de prospective du monde méditerranéen, et Pierre Bécouche, professeur de géographie économique. Ils viennent de publier Afrique, Méditerranée, Europe, la verticale de l'avenir, et ils sont au micro de Catherine Roland.
L'idée que l'Afrique est le continent du 21e siècle, je pense qu'elle est assez admise. Les gens ont bien compris que c'est là que les choses vont se passer, pas seulement là, mais beaucoup là.
Le continent est très jeune.
Très jeune, il y a des ressources fantastiques, la population va être énorme, les classes moyennes sont déjà très fortes, il y a des modèles de développement qui commencent à marcher dans certains pays, bon bref. Mais je crois que ce qui est bien moins compris, c'est justement la relation à l'Europe. Alors, ou bien on raisonne en termes de type colonial ou néocolonial, nous avons des traditions, nous avons des langues communes, ou bien on raisonne en termes d'influence réciproque et d'intégration régionale. Et l'idée centrale du livre, c'est que les grandes régions vont être l'organisation de l'espace de demain.
Alors voilà, tous les deux vous expliquez un concept qui est la solution pour vous, c'est la fameuse verticale de l'avenir. Alors c'est quoi la verticale ?
Nous sommes partis du principe que la mondialisation aller n'importe où, faire n'importe quoi, avec n'importe qui. Ça a duré de 1970, 1980 à la crise de 2008-2010. Et que ce modèle n'est pas tenable. Les producteurs et les consommateurs sont trop éloignés, les distances, tout ça, c'est la gabegie. Ça ne peut pas durer. Et si la mondialisation a du plomb dans l'aile, alors se crée un espace plus compact, plus petit, que nous appelons la régionalisation. Il y a trois grands groupes, et ce qui marche bien, c'est cette relation, par exemple, entre le Japon, la Chine et les pays du sud-est asiatique et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Imaginez que sur 10 000 kilomètres, 2,5 milliards d'habitants, ils sont en train de faire un marché commun, une alliance, une monnaie, et indépendant. Et ça va du nord au sud. Nous avons rappelé ça au début, en 2007, des quartiers d'Orange.
Oui, c'est ça, parce que c'est la même chose pour les deux Amériques, exact. Même s'il y a en ce moment la parenthèse Trump.
Mais l'histoire ne retiendra pas Trump. Le premier investisseur en Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Nord. Et le premier client de l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Nord. Donc, on a trois quartiers d'Orange. Et alors ces quartiers d'Orange, on les appelle la verticale. Mais la nôtre, elle est fascinante. Et la plus difficile. Des musulmans, des juifs, des chrétiens, des arabes, des phéniciens, des africains, des animistes. Et alors, nous pensons que la Méditerranée, l'Afrique et l'Europe sont capables d'inventer le nouveau modèle du 21e et 22e siècle.
Il y a aussi une vision économique, parce que vous dites, si l'Afrique et l'Europe ne se rapprochent pas, ce seront finalement la Chine et les États-Unis qui vont régler la marche du monde.
C'est sidérant de voir le retard de la culture économique en France, et donc la difficulté que nos compatriotes ont à considérer ce que c'est que l'intégration économique régionale. Ce qui se passe en Asie, c'est une intégration productive très rapide. Donc cette réalité économique, elle est massive et elle est très peu vue par les Français, je pense.
Par les Français, et puis justement, les pays du sud de la Méditerranée en ont peut-être assez aussi de se voir considérés comme juste la frontière sud de l'Europe.
Exactement. Il y a un changement très fort à l'heure actuelle. L'Europe a considéré qu'elle était le centre et elle a inventé ce terme, le voisinage. Dire à un Maghrébin, dire à un Égyptien, tu es mon voisin, cela veut dire tu n'es pas comme moi, tu es à la marche, et donc je vais te dire et faire ce qui me semble être bon pour ton sort. Ce qui se passe à l'heure actuelle depuis les révolutions arabes, de nouvelles élites ne sont pas du tout dans la dépendance européenne, qui ont un œil vers l'Europe, mais un œil vers le Moyen-Orient et un œil vers l'Afrique. Regardez, l'Algérie a un projet avec les Chinois, et le plus grand projet d'aménagement du territoire au monde, la dorsale saharienne, Alger-Lagos, 6000 km, 2x3 voies, chemin de fer, gazoduc et haut débit. C'est énorme. On va traverser l'Afrique en 6 jours. Et nécessairement, la Méditerranée n'est plus le cul-de-sac de l'Europe. Et comme le dit le roi, je suis le pivot. L'Europe d'un côté, l'Afrique de l'autre. Et donc, nous disons, oui, nous avons été retardés parce que l'Europe a été prisonnière de sa métamorphose permanente, ne sachant pas si les Anglais rentrent, les Turcs, elle est devenue égoïste.
En conclusion, est-ce qu'on peut dire que finalement, l'Europe, pour vraiment rester européenne avec ses ambitions, doit rattraper les ambitions africaines?
Nous sommes pris par cette représentation continentale de l'espace, et le terme de région est une alternative à cette vision continentale. C'est important parce que nos enfants dans les écoles apprennent les continents. Tant qu'on leur apprend les continents, on n'arrive pas à penser la région. Et pour répondre à votre question sur l'avenir de l'Europe, est-ce que on se réunit pour faire du business ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? L'Africain que nous avons interviewé nous a dit ça très clairement. Il nous a dit ce qui nous intéresse, c'est faire du business, évidemment. Le Tunisien nous a dit ça, Radi Medeb. Nous savons travailler entre Européens, Africains, Méditerranéens. Mais ce que nous voulons en plus, c'est du développement. Les Chinois qui viennent chez nous sont intéressés par le business, ils sont très bons. Ils ne sont pas intéressés par le développement de l'homme africain. Donc, dans cette rupture que nous connaissons les uns et les autres, en Europe, en Afrique, quel type de développement veut-on? Qu'est-ce que c'est qu'un développement inclusif, participatif, durable, productif? Ben, cette nouvelle donne, liée notamment à la révolution numérique, il faut la faire ensemble.
Afrique, Méditerranée, Europe, la verticale de l'avenir de Jean-Louis Guigou et Pierre Bécouche aux éditions Nevicata. Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 en universel.